Pour parler de ces trois figures que sont l'auteur, donc le narrateur et le personnage, il faut d'abord les caractériser de façon ontologique par rapport à un roman donné. L'auteur, c'est une personne réelle, un homme ou une femme qui a une vie indépendante de la littérature, mais qui, pendant une certaine période de sa vie, va consacrer du temps et de l'énergie à réaliser ce roman. Le narrateur, c'est une instance, nommée ou non, qui raconte l'histoire ou une partie de l'histoire et peut, dans certains cas, en être un des protagonistes. Enfin, le personnage est un être fictionnel dont le roman raconte l'histoire de façon intégrale ou partielle. Le narrateur occupe donc une position intermédiaire, d'une part, entre l'auteur et le personnage, mais également entre l'auteur et le lecteur. Donc, je vais commencer par vous parler de l'auteur, et plus précisément des quatre phases du roman. Donc, ce qui se passe, en gros, ce que vit un écrivain quand il écrit un roman de A à Z. Ces quatre phases, c'est indiqué dans l'exemple que je vous ai donné, sont l'élaboration, la construction, l'écriture et le remaniement. L'élaboration. L'élaboration, c'est une phase purement mentale, qui peut durer plusieurs mois, voire davantage, où les idées viennent d'elles-mêmes de façon anarchique, s'ajoutent les unes aux autres, sans que rien soit fait pour leur donner une forme écrite. Ainsi peuvent apparaître des thèmes, des personnages, des bribes d'histoire, un climat d'ensemble, au début par simple émergence, puis, à mesure que ces fragments se précisent, par association d'idées et séquences logiques. Cette étape se déroule uniquement dans le cerveau de l'auteur. Bien évidemment, les objets que chaque auteur conçoit, enfin les objets littéraires, lorsqu'il élabore un roman, lui appartiennent en propre. L'élaboration, c'est la phase la plus secrète du processus créatif. Ces traces à la lecture sont difficilement identifiables en tant que telles, c'est celle qui échappe le plus, évidemment, aux critiques, puisqu'il faut être dans la tête de l'auteur pour la connaître. Cela dit, ces objets, cependant, peuvent être regroupés en plusieurs catégories qui ne varient guère. Alors, quelles sont ces catégories? Il y a les principes de base. Lors de l'élaboration, certains des principes fondamentaux auxquels le roman va obéir se dégagent, soit constituent des motivations qui mènent l'auteur à l'entreprendre, soit au contraire qui découlent des nécessités de l'histoire. Outre le choix d'un genre, policier, science-fiction, roman historique, etc., on trouve un certain nombre d'éléments d'ordre conceptuel, par exemple, répéter le même schéma relationnel sur deux générations, ça c'est les Hauts-du-Hurlevent ou à l'Est d'Eden. Changer de narrateur à chaque chapitre, c'est Tandis que j'agonise de Wolf Faulkner où il y a une quinzaine de narrateurs. Écrire un roman dans lequel il ne se passe quasiment rien, c'est le désert des Tartares de Bizzati ou le rivage des Sirtes de Julien Gracq. Raconter une histoire sans jamais révéler le sexe du héros, c'est le Sphinx d'Anne Garetta. Construire un roman sous la forme d'un dictionnaire, c'est l'univers de Hubert Haddad, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les principes de base. L'idée centrale, qui n'est pas tout à fait la même chose, elle apparaît dans le meilleur des cas à l'issue d'une réflexion existentielle ou esthétique, soit, au contraire, par une fulgurance. Tout à coup, paf, je vais parler de ça. Ça dépend des fois. Mais il arrive aussi qu'elle se dégage lentement d'un groupe d'éléments, les protagonistes, des fragments d'histoire, des principes narratifs, relativement flous au départ, qui fait qu'on ne sait pas d'abord lequel on va privilégier. Alors là, je prends un exemple concret, c'est la genèse de Crime et Châtiment. Il semble, d'après une lettre écrite par Dostoïevski en septembre 1865, que l'idée centrale en ait été présente dès le début. Montrée par la relation psychologique d'un crime, entre guillemets, ça c'est le terme qu'il emploie, la relation psychologique d'un crime, que le coupable a plus que tout besoin d'expier son forfait. En revanche, quand on regarde les notes et brouillons, ainsi que les carnets de Crime et Châtiment, on s'aperçoit que certains aspects ont été beaucoup plus longs à élaborer. Ainsi, Dostoïevski a eu du mal à choisir entre récit auto et hétérodiégétique, le « je » figurant dans les premières ébauches du roman, pour céder la place au « il » dans la version définitive. Et au départ, la rédemption finale de Raskolnikov n'était pas prévue, le héros étant censé au contraire se donner la mort. Donc après l'idée centrale, arrivent des thèmes annexes, qui peuvent soit s'imposer indépendamment de cette idée centrale, soit au contraire en dériver. Là, l'élaboration conduit l'auteur à une sorte de vision prémonitoire du roman, où ces éléments s'organisent les uns par rapport aux autres de manière spatio-temporelle. J'entends par là dans l'espace, car plusieurs d'entre eux, tels que un mode narratif, un lieu, les événements qui s'y déroulent, peuvent coexister au sein d'un chapitre ou d'une page. Mais également dans le temps, car la nature linéaire du texte soumet la distribution des faits rapportés à une double chronologie, évidemment, celle de l'histoire et celle du discours. C'est aussi à ce stade que le poids relatif de ces thèmes annexes est déterminé, quitte à être revu par la suite. Autre élément qui apparaît pendant l'élaboration, ce sera le dernier d'ailleurs, les éléments concrets. Toute une bonne partie de ce qui est lieu, époque, personnage, accessoire, émerge durant la phase d'élaboration, que l'auteur l'épuise dans son passé, dans son environnement, dans l'histoire avec un grand H, dans l'actualité, ou dans les mythes. Outre cette émergence, la plus grande partie du travail mental qui s'opère toujours pendant l'élaboration consiste à établir des connexions entre ces éléments qui peuvent a priori n'avoir aucun rapport les uns avec les autres, puisque souvent ils surgissent de façon désordonnée. Donc, par exemple, placer tel personnage né de la synthèse d'une partie de l'auteur, d'un modèle pris dans son entourage, d'une figure mythique, etc., dans tel lieu, un pays que l'auteur a visité, une ville qu'il réinvente, un bâtiment qu'il organise selon les exigences de l'histoire, etc. Ou préciser la relation qui existe entre deux personnages et la manière dont elle va évoluer au cours de l'histoire. Ou encore explorer mentalement cette relation dans le cadre d'une scène donnée, etc. À ce dernier point, il faut ajouter que parfois la superposition de la rêverie passive, au sens bachardien du terme, et de la réflexion, crée chez l'auteur un état de semi-transe, au cours duquel les personnages qu'il est en train d'élaborer lui deviennent si présents qu'il ressent véritablement leurs émotions et se retrouve de manière fugitive à l'intérieur même de leur relation. Alors ça peut arriver soit pendant l'insomnie de 4 heures du matin, moi ça m'est arrivé la nuit dernière, soit sous la douche, soit n'importe quand, en voiture, soit paf, tout à coup, il y a un machin qui s'organise, une séquence relationnelle, ah mais lui il va être comme ça par rapport à elle, ils ont été ceci, cela, autre chose, et bon, voilà, il y a ça qui arrive. Et cet état de transe ne fait qu'anticiper ce qu'il connaîtra ultérieurement, en particulier au cours de la phase d'écriture. J'en viens maintenant à la deuxième phase. Quand je dis la deuxième, c'est pas forcément, elle ne se passe pas toujours dans cet ordre. Je reviendrai là-dessus après. Donc après l'élaboration, il y a la construction. L'accumulation de ces objets mentaux, qui chacun à sa manière réclame de prendre vie, crée sur l'esprit de l'auteur une pression conséquente. Souvent, avant de s'engager dans la rédaction proprement dite, il préfère d'abord les noter par écrit, les préciser, les ordonner. Ceci peut le conduire d'une part à établir des documents de référence, des fiches signalétiques de personnages, des schémas relationnels, des données chronologiques, etc. D'autre part, à dresser une structure globale plus ou moins détaillée qui fixe la succession des événements et ou des unités d'écriture, chapitres, sous-chapitres, etc. Bref, à baliser autant que possible l'espace utopique dans lequel il va s'aventurer. Alors, selon ses priorités et selon sa technique personnelle, il établit un certain nombre de documents écrits qui vont lui donner de son roman des représentations schématiques, non seulement dans son déroulement linéaire, mais aussi dans l'organisation de ses différents plans, par exemple le plan philosophique, le plan historique, le plan relationnel, le plan symbolique, etc. Et également l'organisation, le détail des éléments concrets appelés à le constituer. Donc, plus précisément, la construction va mettre en jeu les éléments suivants. Des points d'érudition. Un romancier, en général, prend un pan de la réalité pour référence, plus ou moins. Quand c'est le cas, il doit regrouper des informations sur le sujet, que ce soit d'une réalité d'ordre historique, social, professionnel, scientifique ou autre. Le dossier qu'il constitue alors, et dont l'hétérogénéité reflète la multiplicité des sources et des méthodes d'investigation, va former l'interface du monde réel, auquel il se réfère, et de l'univers romanesque qui va viser à le représenter d'une manière plus ou moins déformée, bien entendu. Ensuite, des supports fictionnels. En plus de ces éléments dont le rôle est de garantir la conformité du texte à une vérité qu'il veut extérieure, il est souvent nécessaire d'en établir d'autres qui, eux, ont pour seule fonction d'assurer sa cohérence interne. Par exemple, les cartes géographiques, avec villes, cours d'eau et montagnes, comme celle du pays légendaire où se déroule le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ou bien les arbres généalogiques, qui permettent de préciser l'origine des personnages et les liens existants entre eux. D'ailleurs, parfois, ils sont rajoutés après, dans les Hauts-du-Hurlevent, c'est le traducteur qui l'a rajouté après. Ça aide bien la compréhension. Les lexiques, qui à travers des fragments d'une langue inventée, donnent vie à une civilisation. Ainsi, le lexique de l'Imperium dans Dune de Frank Herbert. Les calendriers, qui pour des ouvrages où interviennent un grand nombre de personnages, et plus encore les sagas qui les font circuler d'un volume à l'autre, permettent à l'auteur d'éviter toute erreur de chronologie. Moi, personnellement, j'ai un grand calendrier que je mets à jour chaque année, à mesure que j'ajoute des personnages, puisque je travaille sur un cycle de 9 romans. Et le premier commence en 1952, et les suivants, ça va jusqu'à la fin du XXe siècle, et il faut remonter historiquement, en fait, bien avant 1952, pour avoir les origines des parents, des personnages, etc. Donc, j'ai un calendrier qui s'étale sur à peu près une centaine d'années, et chaque année, je sais, bon, un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel fait autre chose, un tel naît, un tel meurt. Comme ça, je me paume pas. Ces supports, de par leur nature instrumentale, sont souvent destinés au seul usage de l'auteur, le grand calendrier en question, concerne que moi, et n'accompagnent pas le texte lors de la publication de romans. Et par ailleurs, s'ils sont mis en place dès la phase de construction, il n'est pas rare qu'ils s'enrichissent de détails supplémentaires lors de l'écriture. Autre élément encore qu'on met en place dans la construction, c'est la définition des personnages. Quelle que soit la manière dont il les appréhende, l'auteur est souvent amené à en préciser à l'avance un certain nombre d'aspects. Il faudra une deuxième feuille, je pense. Pour continuer pour la liste. J'en étais où ? Ah. Bon, par exemple, leurs caractéristiques individuelles, qui peut systématiser par l'emploi de fiches signalétiques, où il leur attribue un passé, un âge, une situation sociale, un physique, des traits particuliers, des objectifs, etc. Ensuite, leurs interactions, qui peuvent apparaître sous forme de schémas mettant en évidence leur rapport affectif, hiérarchique, leurs liens symboliques, les alliances qu'ils établissent et qui vont changer en cours de route. Enfin, leur évolution au cours de l'histoire, une évolution individuelle ou relative, qui là encore peut donner lieu à des diagrammes plus ou moins complexes. Je précise qu'au bout de quelques romans, l'auteur a suffisamment intégré ce genre de choses pour les faire mentalement et plus les faire par écrit. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui existe. Mais au bout d'un moment, ça se fait plus ou moins automatiquement dans sa tête. Enfin, le récit lui-même. Pour fixer le déroulement du roman, l'auteur structural. Alors oui, j'ai pas dit qu'il y avait deux types d'auteurs. Je crois que je reviendrai un peu dessus après. Il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs structuraux qui structurent avant d'écrire et les auteurs scripturaux qui écrivent avant de construire. Et puis il y a évidemment tous les intermédiaires. Et puis un auteur peut n'avoir pas toujours la même attitude d'un roman à l'autre ou même à l'intérieur d'un roman. Donc l'auteur structural. Moi je suis un auteur structural par exemple. Mais je connais des auteurs qui sont tout à fait scripturaux et on ne comprend absolument pas comment on fonctionne. Ce qui se passe dans la tête de l'autre est un total mystère pour chacun de nous. Donc, le structural en dresse un plan général, chapitre par chapitre, qui prend en compte non seulement le contenu de l'histoire, mais également l'ordre dans lequel le récit va la transmettre, qui n'est pas nécessairement chronologique. Un tel plan, selon le tempérament de l'auteur, mais aussi les exigences propres à certaines parties, prend la figure d'un synopsis plus ou moins long, dans lequel certains chapitres sont résumés en une phrase, quand d'autres sont plus détaillés, jusqu'à inclure des bribes de dialogue. J'en viens maintenant à l'écriture, troisième phase de la réalisation du roman, pour l'auteur. « Qu'elle soit ou non précédée d'une construction, la phase d'écriture exige de l'auteur un engagement plus radical dans les mots. C'est celle où se constitue la matière proprement verbale du roman. Mais cette matière se met en place de bien des façons. Certains écrivains, pour vivre de l'intérieur l'évolution de leurs personnages et anticiper l'expérience qu'en aura plus tard le lecteur, ou parce que de ce cheminement naîtra la structure finale, ça c'est dans le cas des auteurs scripturaux, donc certains écrivains rédigent leur roman en allant du début jusqu'à la fin. D'autres, au contraire, que ce soit en fonction de leur mode de pensée ou à cause des réquisites d'un texte particulier, vont écrire en bloc ce qui touche à un thème, ce qui touche à un narrateur, ce qui touche à un personnage donné, et faire l'emboîtage après. D'autres encore œuvrent sans suivre un ordre préétabli, en cessant davantage d'idées par l'instinct que par la rationalité, la structure s'établissant alors par assemblage de fragments. Ceci étant, le type d'immersion que recherche un écrivain dépend du roman sur lequel il travaille, mais surtout de son tempérament. Alors là, je vais prendre trois exemples dont je vous ai donné copie, qui sont Émilie Brontë, Julien Gracq et Albert Camus, donc des tempéraments très différents. Et l'écriture de leur œuvre est le reflet d'une attitude profondément différente face à l'écriture. Si on prend Le Haut du Hurlevent, qui date de 1847, avec sa galerie de personnages extrêmes au bord de l'hystérie, ravagés par des passions qu'il pousse au paroxysme, on ne peut pas considérer cette écriture comme le fruit d'une distanciation sereine. Alors j'ai l'exemple pour ceux qui en parlent. « Oh, par pitié !» interrompit ma maîtresse en frappant du pied. « Par pitié, ne parlons plus de cela pour le moment. Votre sang, toujours calme, ne connaît pas les ardeurs de la fièvre. Vos veines sont remplies d'eau glacée. Les miennes sont en ébullition et la vue d'une telle froideur les fait bondir. » Pour écrire une telle réplique, Émilie Brontë doit établir une résonance entre deux parties d'elle-même. Et là, je me mets dans la tête d'Émilie Brontë, c'est une transposition de ce que je fais, moi, dans le même genre de situation, mais je pense que c'est à peu près pareil. L'une qui est Catherine Linton, l'autre qui se fait le porte-parole de ses propos. Donc, pour atteindre la première, celle qui est Catherine Linton, il lui faut se plonger dans une immersion de type émotionnel, dont la seconde doit garder le contrôle. S'il n'y avait pas un niveau profond, une identification si partielle, si fugace soit-elle, entre l'auteur et le personnage, les affects qui animent celui-ci ne pourraient pas être captés par celui-là et retranscrits en parole, même s'il doit les remanier par la suite. Et cette immersion est d'autant plus délicate que l'interlocuteur de Catherine est justement habité par ce calme que dénonce la jeune femme, et que pour rédiger ses répliques, donc les répliques de l'interlocuteur, Émilie Brontë doit puiser ce calme en elle-même comme elle y a puisé la violence précédente. De façon paradoxale, l'immersion émotionnelle d'un auteur exige donc de lui qu'il s'ouvre en même temps à des affects opposés pour les exprimer de la manière la plus équitable possible. D'où la nécessité souvent de revenir sur le premier jet qui n'a atteint qu'imparfaitement ce but. Deuxième exemple, c'est Au château d'Argol de Julien Gracq, qui date de 1938, qui a la particularité d'être un roman entièrement dépourvu de dialogue, et qui présente un type d'immersion très différent que l'on pourrait qualifier de poétique, dans la mesure où la dramaturgie s'y exprime à travers l'esthétique même du langage. Tantôt la rivière, atteinte par les rayons obliques du soleil dans le plein épanouissement d'une de ses courbes, éclatait à l'œil en larges plages lumineuses et scintillantes, et tantôt elle se resserrait en un étroit couloir entre de hautes murailles végétales, au sein desquelles elle paraissait s'échapper avec la fluidité d'une huile noire et verte, et s'adapter à la couleur sombre de ses parois profondes, avec la malignité d'un piège naturel, frappant l'essence d'une silencieuse horreur comme un serpent glissant dans les herbes. Il y a une musique, c'est une musique avant tout cette description. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est une description vue à travers le regard d'un personnage, Albert. Elle est donc de type expressionniste, en ce sens qu'elle porte autant sur un état d'âme que sur un paysage. L'ensemble du roman procède ainsi par une écriture lente et ciselée d'une sophistication extrême, d'où l'émotion se dégage non par identification, mais par une sorte d'hypnose qui semble le reflet des méditations les plus profondes de l'auteur. C'est la sensualité propre des mots qui façonne, phrase après phrase, le déroulement de l'histoire. Et pour parvenir à ce résultat, Gracq a dû s'immerger intensément dans cette zone secrète de l'être où la perception du monde et la genèse du langage ne font plus qu'un. La peste, enfin, qui date de 1947, présente un troisième type d'immersion où, au contraire des deux précédents, les affects comme les sens sont soigneusement épurés. Une immersion intellectuelle, pourrait-on dire, où l'écriture se réduisant à la seule pensée, c'est de son dépouillement même qu'elle retire sa force. Mais la nuit était aussi dans tous les cœurs, et les vérités comme les légendes qu'on rapportait au sujet des enterrements n'étaient pas faites pour rassurer nos concitoyens. Car il faut bien parler des enterrements, et le narrateur s'en excuse. Il sent bien le reproche qu'on pourrait lui faire à cet égard, mais sa seule justification est qu'il y eut des enterrements pendant toute cette époque, et que, d'une certaine manière, on l'a obligé, comme on a obligé tous ses concitoyens, à se préoccuper des enterrements. Hein ? Là, on est loin de tout pathos. La tension intérieure de l'auteur est tournée vers une relation aussi neutre que possible de la réalité, dans le désir d'en dégager sa substance même. S'il s'immerge dans quelque chose, c'est dans un effacement de lui-même. Une sorte d'ascèse qu'il revendique comme la manière la plus juste d'atteindre le réel. Donc on a là trois exemples très différents d'immersion, auxquels on pourrait en ajouter évidemment bien d'autres, l'immersion spirituelle, l'immersion non-sensique, etc. Et j'arrive maintenant au remaniement, donc la quatrième partie. Une fois achevé, là je vais aller très vite, une fois achevé une première version du texte, mais parfois aussi en cours de route, la relecture peut mettre en évidence tel ou tel problème que le manque de recul inhérent aux autres phases, donc lié à l'immersion, a occulté, et qui rend le résultat insatisfaisant par rapport au projet initial. L'important est alors de déterminer si ce problème vient d'un défaut de construction, d'un défaut d'écriture, ou des deux à la fois. Ceci établi, il reste encore à trouver des solutions et les intégrer au texte, ce qui impose souvent d'agir à un double niveau. Au niveau global, par une action syntagmatique sur l'ensemble du roman ou l'une de ses parties, c'est-à-dire, par exemple, on décide tel personnage est trop mou, on va le rendre plus agressif. Donc tout au long du roman, on va suivre ce personnage, et lui seulement, et le durcir à chaque fois en lui mettant des adjectifs plus durs, en le faisant parler de façon plus sèche, etc., pour relever son agressivité. Ou alors, au niveau local, par une action donc paradigmatique à l'échelle du paragraphe ou de la phrase, on va remanier un paragraphe ou une phrase en cherchant des versions différentes et en établissant de proche en proche quelle est la meilleure version de ce paragraphe ou de cette phrase pour résoudre le problème qui se pose. De cette répartition, alors maintenant j'en viens aux différents types d'auteurs, de cette répartition se dégage d'ores et déjà un premier constat, donc j'ai déjà fait le constat tout à l'heure, qu'il apparaît que les romanciers se répartissent en deux grands groupes dont la pratique est foncièrement différente. Et cela, même s'il n'est pas toujours aisé de déterminer sur la seule foi de leur œuvre à quelle catégorie ils appartiennent. Alors je commence par les romanciers structuraux. Chez eux, donc, c'est ceux que je connais mieux puisque j'en fais partie, la structure précède l'écriture. Ils n'entament la rédaction d'un roman qu'une fois mise en place une construction solide, quitte à reconsidérer celle-ci en cours de route. Tel auteur de romans policiers ou de science-fiction, basant ses récits sur un mécanisme complexe ou bien l'exploration d'un paradoxe, pourra ainsi consacrer plus d'un an à la construction et seulement quelques mois à l'écriture. Bon, Alexandre Dumas est un romancier typiquement structural. On trouve dans les annexes du vicomte de Bragelonne un plan en bonne et due forme, dont l'utilité est d'autant plus claire qu'une bonne partie de ce roman, publié en feuilleton, a été écrite non pas par lui, mais par Auguste Maquet, et qu'il importait de veiller à la cohérence de l'ensemble. On lit ainsi, par exemple, lors de l'épisode du jumeau de Louis XIV, substitué au souverain par Aramis. Le roi seul dans sa prison, son désespoir. Ça, c'est le chapitre 224. Chapitre 225. La nuit de D'Artagnan et de Fouquet, qui a demandé après Aramis toute la nuit. Chapitre 226. La nuit du faux roi dans le lit royal. Au matin, D'Artagnan se préparant à rentrer chez le roi pour lui demander ses ordres. Quand Aramis, à la porte, annonce que le roi, un peu souverain, ne recevra que les grandes entrées. Quant à M. Fouquet, voilà l'ordre de le mettre en liberté. Donc là, il donne déjà plus de détails par rapport au premier exemple. Chapitre 227, il met un fragment de dialogue. Aramis et Fouquet, je suis chez moi, vous aurez Belle-Île, prenez 4 heures pour vous mettre hors de la portée du roi. Fouquet furieux part pour Paris, tandis que Porthos et Aramis partent pour Belle-Île. Donc tout est entièrement balisé et par moments il y a des petits bouts de dialogue qui précèdent l'écriture. Alors les romanciers scripturaux, qui pour moi sont une profonde énigme, mais enfin j'en connais quelques-uns avec qui j'ai beaucoup discuté justement, alors ils me disent, chez eux donc l'écriture précède la structure, et ils me disent qu'ils n'éprouvent aucun plaisir à écrire un roman s'ils savent à l'avance ce qui va s'y passer. Alors que pour moi, c'est le contraire. Moi, j'ai besoin de prévoir à l'avance pour le vivre vraiment au maximum au moment où ça va vraiment arriver. Merci. Alors, j'ai un exemple tout à fait intéressant de Christiane Rochefort qui a fait un essai en 70, C'est bizarre l'écriture, à propos de Destance à Sophie. Et elle explique comment ça lui arrive. J'ai écrit banalement, deux points après les guillemets, Philippe a regardé sa montre, on était les premiers. Fermez les guillemets. Je suis à la ligne et j'ai mis, alors on a attendu. Je jure sur ma main droite qu'en écrivant cette phrase, je ne savais pas que Julia était morte. Ne me demandez pas qui est Julia, je n'ai pas lu le livre. Peu importe. Une fois tombée, il faut dire que la phrase là, au milieu de sa ligne, il y avait un air de malaise. Alors on a attendu. Hein? On voyait bien qu'on attendrait vainement. Alors j'ai mis une étoile au milieu pour qu'on attende. J'ai encore écrit, on a eu du mal à les retrouver. Je n'étais pas sûr. J'ai donné les nouvelles de Jean-Pierre d'abord. Et puis à la question, et Julia, est venue absolument fatale, la réponse, elle est morte. Bon, moi ça m'est jamais arrivé ça, mais je connais des gens à qui ça arrive, et je trouve ça très bizarre. Alors évidemment, ce sont deux pôles théoriques, mais la quasi-totalité des écrivains que j'ai pu interroger à ce sujet se reconnaissent spontanément dans l'une des deux pratiques, même si quelques-uns admettent courir parfois à l'autre. Cette constatation expérimentale et portant sur les auteurs contemporains rejoint d'ailleurs les résultats obtenus à propos des auteurs classiques par les chercheurs pratiquant la génétique des textes. Je renvoie pour ça à l'ouvrage de Pierre-Marc de Biasi, La génétique des textes, où il développe exactement cette idée avec une autre terminologie, mais il dit exactement la même chose. Cela dit, il faut préciser que certains auteurs adoptent tantôt une attitude, tantôt l'autre, y compris à l'intérieur d'un même roman. Alors là, j'ai un très joli exemple que j'ai emprunté à Frédéric Tristan, que j'ai interrogé sur son roman Stéphanie Fanisté, qui date de 1997, et qui présente une étonnante synthèse des deux modes. C'est un ample roman gigogne, où de multiples récits se succèdent, se télescopent, s'emboîtent les uns dans les autres, jusqu'à atteindre 3, voire 4 niveaux. Il est construit autour d'une femme mystérieuse, Stéphanie, donc vous voyez le titre Stéphanie Fanisté, c'est un anagramme, dont le visage ne semble jamais le même. Alors concrètement, comment ça se passe? Dans un salon, 7 gentlemen racontent tour à tour leur rencontre avec cette femme. Le déroulement de leur aventure respective étant fixé au préalable par l'auteur. Donc à ce niveau-là, premier niveau, on a affaire à une démarche structurable. L'aspect scriptural, m'a-t-il dit, apparaît en revanche chaque fois que, à l'intérieur de l'une de ces histoires, surgit un personnage secondaire qui prend la parole pour entamer à son tour un récit dans lequel intervient un troisième personnage qui lui-même, etc. Là, Tristan s'est accordé le droit d'improviser, créant ainsi tout un jeu de heurts, de recoupements, de contradictions entre les différents témoignages, ce qui donne au personnage de Stéphanie sa dimension de pure fiction. Enfin, par rapport à ces deux catégories, je veux introduire la notion de variante. Parce que qu'on ait affaire à un écrivain structural ou scriptural, l'élaboration et le remaniement sont eux aussi sujets à d'importantes variations. Si pour tel auteur, l'élaboration se prolonge pendant des mois, personnage et fragments d'histoire ne parvenant que peu à sa conscience, tel autre, sur la seule fois d'une idée venant pendant la nuit, entame dès le matin la rédaction de son ouvrage en laissant son instinct seul le guider. Et de même pour le remaniement. qui paraît à certains aussi capitale que la rédaction proprement dite, parce que justement on travaille sur une matière qui existe déjà, donc c'est une démarche de sculpteur qui remodèle sa pâte, hein. Alors qu'un autre est auteur, plus poète peut-être que romancier, va retravailler chaque mot, chaque page, mot par mot, durant la phase d'écriture, pour ne revenir dessus que fort peu, sinon pas du tout, une fois le roman achevé. Et la pluralité de ces cas de figure nous conduit à un deuxième constat. Ces phases que l'on pourrait croire successives dans le temps ne demandent en réalité qu'à se superposer, sinon à apparaître dans un autre ordre. La phase d'élaboration, par exemple, se poursuit alors même que le roman est déjà en cours d'écriture, puisque certaines idées surgissent en cours de route et ouvrent des voies malgré tout, même si on est très psychorigide et très obsessionnel, ils ouvrent des voies qui n'étaient pas prévues au départ et qui sont sympathiques et attirantes, et malgré tout on va les développer, donc on va quand même déraper par rapport à ce qui était prévu. Et l'écriture d'un chapitre donné peut, par exemple, révéler une erreur de structure globale. À savoir, on n'a pas, par exemple, on n'a pas accordé assez de poids, assez d'importance à tel personnage secondaire qui finalement est devenu vraiment essentiel. Et il faut, va falloir revoir tout le début en fonction de ça, et la fin aussi, et éventuellement écrire un autre roman justement parce que ce personnage finalement il a pris du poids, mais ça m'est arrivé. Bon. Quant au remaniement, évidemment, il n'est pas rare qu'il débute avant que soit terminée la rédaction de l'ouvrage, on a écrit, voire même sa construction. On a écrit 3-4 chapitres, on relit, on dit vraiment c'est nul, vraiment ça ne va pas du tout. Je ne peux pas continuer sur cette base, donc on reprend tout, etc. Voilà à peu près pour l'auteur, ce qui se passe dans sa tête. Ça, c'est évidemment pendant la réalisation du roman. Après, il y a ce qui se passe à la publication, les exemplaires vendus, la critique, bon, c'est autre chose. J'en viens donc à mon deuxième héros de la soirée, enfin de l'après-midi, le narrateur. Alors, je vais être un petit peu basique, hein. Je reviens sur les trois types de narrateurs. Dans figure 3 de 72, Genette introduit les notions de récit hétérodiégétique, homodiégétique et autodiégétique. Par extension de ces termes, on peut donc définir trois types de narrateurs différents. Là, je pense que Sylvie Patron m'expliquera le contraire. En temps utile, cette trinité. Mais bon, moi je la trouve bien, mais j'attends avec plaisir ce que tu nous diras là-dessus. Donc, restons dans la trinité pour l'instant. Le narrateur hétérodiégétique, donc, c'est une pure instance narrative. Il ne porte pas de nom, il est extérieur au plan de l'histoire, et en même temps, il est distinct de l'auteur, ce qui n'est pas toujours évident pour les jeunes écrivains qui pensent, au départ, le narrateur, c'est moi. Moi, comme on m'a dit la première fois, il n'y a pas de narrateur dans ton roman. Je lui ai dit, si, c'est moi. Eh ben non, il paraissait qu'il y avait un narrateur qui n'était pas moi. Alors au début, ça m'a beaucoup vexé. Puis finalement, je me suis rendu compte que si ça existait, puis que c'était drôlement utile, en fait, ça permettait d'éviter certaines ambiguïtés. Je reviendrai là-dessus après. Donc, ontologiquement, on peut dire que c'est une voix de l'auteur. Hein. C'est la partie de lui qui raconte l'histoire. De façon plus sournoise, c'est un porte-parole non déclaré qui donne son avis sur les événements de manière à ce que cet avis paraisse la voie même de la vérité, son jugement sur les personnages étant celui que l'auteur veut faire passer. C'est là qu'on s'aperçoit que les auteurs sont de grands menteurs. Hein. Parce que ce type de manipulation du lecteur peut aller très loin, pour peu que le narrateur lui mente par omission ou de façon délibérée. Alors là, je vais prendre un exemple célèbre, qui est celui de Michel Strogoff, de Jules Verne. Narrateur purement hétérodiégétique. Hein. Il sait tout, il voit tout, il dit la vérité, rien que la vérité. 1867, l'ombre. Le héros, donc Michel Strogoff, doit porter une lettre du tsar au grand-duc qui réside à Irkoutsk. Mais en chemin, il est capturé par le traître Ivan Ogareff qui le livre à l'émir tartare Féofarkan. Celui-ci le condamne au supplice. Donc le narrateur nous dit: Michel Strogoff allait être aveuglé, suivant la coutume tartare, avec une lame ardente passée devant ses yeux. Michel Strogoff ne chercha pas à résister. Plus rien n'existait à ses yeux que sa mère, qu'il dévorait alors du regard. Parce que sa mère est devant lui. Toute sa vie était dans cette dernière vision. Marfa Strogoff, l'œil démesurément ouvert, les bras tendus vers lui, le regardait. La lame incandescente passa devant les yeux de Michel Strogoff. Un cri de désespoir retentit. La vieille Marfa tomba inanimée sur le sol. Michel Strogoff était aveugle. Le narrateur donc écrit sans scrupule « Michel Strogoff était aveugle ». Et si l'échange de regards entre la mère et le fils va plus loin que le lecteur à cet instant du récit ne peut le soupçonner, le même narrateur détourne aussitôt son attention en lui rapportant un dernier acte de cruauté d'Ogareff, un acte qui lui aussi prendra sa signification plus tard. Ivan Ogareff tira de sa poche la lettre impériale, il l'ouvrit et par une suprême ironie, il la plaça devant les yeux éteints du courrier du tsar, disant « Lis maintenant, Michel Strogoff, lis et va redire à Irkoutsk ce que tu auras lu. Le vrai courrier du tsar, c'est Ivan Ogareff. » Bon, vous savez tous évidemment que Michel Strogoff n'est pas vraiment aveugle. Et évidemment, cette scène-là n'a uniquement pour fonction d'annoncer ce qui va se passer à la fin, à savoir que pendant le temps où il a lu la lettre, Michel Strogoff l'a appris par cœur, bien qu'il soit censé être aveugle. Bon, par la suite, le narrateur continue de manipuler le lecteur en lui dispensant un habile mélange de mensonges destiné à le maintenir dans l'idée que le héros a réellement perdu la vue et d'indices visant à lui laisser l'infime espoir que peut-être il n'en est rien. La description suivante, qui situe quelques pages après le supplice, est assez éloquente. Les paupières de l'aveugle, l'aveugle, rougies par la lame incandescente, recouvraient à demi ses yeux absolument secs. La sclérotique en était légèrement plissée et, comme racornie, la pupille singulièrement agrandie. L'iris semblait d'un bleu plus foncé qu'il n'était auparavant. Les cils et les sourcils étaient en partie brûlés, mais, en apparence du moins, le regard si pénétrant du jeune homme ne semblait avoir subi aucun changement. Tiens, tiens. S'il n'y voyait plus, si sa cécité était complète, c'est que la sensibilité de la rétine et du nerf optique avait été détruite par la chaleur de l'acier. Ben voyons. Donc, le début du paragraphe décrit sans ambiguïté les yeux d'un aveugle. Après, il instille un doute, et puis après, encore, il s'applique à le dissiper par un argument pseudo-scientifique qui, a priori, semble irréfutable. C'est quand même admirable de se dire que la chaleur de l'acier a détruit la rétine et le nerf optique, mais pas la cornée. Ce n'est qu'après la mort d'Ogareff, tué par le héros au terme d'un duel auquel sa soi-disant cécité donne une dimension quasi fantastique, que le narrateur passe enfin aux aveux. Il entame le dernier chapitre par une déclaration sans détour. Michel Strogoff n'avait jamais été aveugle. Page 491. Suite une explication précise du phénomène qui s'est produit, dont l'exposition réduit à néant l'argument précédent. On se rappelle qu'au moment du supplice, Marfa Strogoff était là, tendant les mains vers son fils. Michel Strogoff la regardait comme un fils peut regarder sa mère quand c'est pour la dernière fois. Remontant à flot de son cœur à ses yeux des larmes que sa fierté essayait enfin de retenir, s'était amassée sous ses paupières et, en se volatilisant, le vaisseau avait la vue. La couche de vapeur formée par ses larmes, s'interposant entre le sabre ardent et ses prunelles, avait suffi à annihiler l'action de sa chaleur. C'est un effet identique à celui qui se produit lorsqu'un ouvrier fondeur, après avoir trempé sa main dans l'eau, lui fait impunément traverser un jet de fonte en fusion. Ça, c'est Jules Verne, scientifique, précis et roublard. Car si l'explication paraît plausible, c'est quand même sa valeur émotionnelle qui emporte l'adhésion du lecteur, lequel, piégé à la fois dans ses sentiments et dans sa raison, n'est que trop heureux d'adhérer à une idée si fabuleuse. Passons au deuxième héros de la, comment on a dit, la triade ? La Trinité. C'est pas la même connotation, la triade et la Trinité. Le narrateur homodiégétique. Donc le narrateur homodiégétique est un personnage qui rapporte des événements dont il a été un témoin plus ou moins proche. Il a un nom, il parle à la première personne, mais il n'est pas le héros de l'aventure. Donc, exemple, Monsieur Lockwood. Alors je vous préviens, je vais beaucoup vous parler des Hauts de Hurlevent, parce que c'est un roman que j'adore, et puis qui est plein d'exemples très intéressants. Donc M. Lockwood, dans les Hauts-du-Levant, dit « Je viens de rentrer après une visite à mon propriétaire, l'unique voisin dont j'ai à m'inquiéter. En vérité, ce pays-ci est merveilleux. Je ne crois pas que j'eusse pu trouver dans toute l'Angleterre un endroit plus complètement à l'écart de l'agitation mondaine. Un vrai paradis pour un misanthrope. Et M. Heathcliff et moi sommes si bien faits pour nous partager ce désert. Quel homme admirable !» Certes, Lockwood est le héros de son propre récit, mais pas celui du roman qui est justement Heathcliff. Et le fait d'introduire ce personnage donne une première dimension d'authenticité feinte à la suite de l'ouvrage. Celui-ci ne se présente donc pas comme un roman, mais comme le récit que fait un voyageur d'événements qui lui ont été racontés et dont lui-même a rencontré un certain nombre de protagonistes. Par rapport au narrateur hétérodiégétique, le narrateur homodiégétique est donc un masque déclaré en tant que tel. Lockwood est un homme, alors qu'Emily Brontë est une femme. Donc, elle prend un masque masculin. Cela dit, il y aura un deuxième narrateur. Par ailleurs, s'il peut mentir délibérément, il le fera plutôt par ignorance. Quand Lockwood qualifie Heathcliff d'admirable, c'est en toute naïveté. La suite du roman ne va pas confirmer ce jugement. Et le troisième membre, le Saint-Esprit, donc le narrateur autodiégétique, c'est également un personnage. Mais à l'inverse du précédent, l'histoire qu'il raconte est la sienne. Il est donc beaucoup plus impliqué émotionnellement dans ce récit, ce qui favorise une identification maximale du lecteur. Alors là, on va prendre David Copperfield, 1850, où, Dickens pose la question très, très clairement. Vais-je devenir le héros de ma propre autobiographie, ou bien ce rôle sera-t-il joué par quelque autre personne? C'est ce que le présent récit devra démontrer. On est au tout début du livre. Hein. Pour commencer le récit de ma vie, par le commencement de ma vie, je note que je suis né, à ce qu'on m'a dit, et je le crois, un vendredi à minuit. On remarqua que la pendule sonna et que je commençais à crier simultanément. Cependant, cette implication émotionnelle et l'identification qui en résulte demeurent assez relatives, comme le montrent certains romans du XXe siècle. Là, on revient à Camus, L'étranger, Meursault, ce début célèbre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Bon, là, l'émotion, zéro, neutralité absolue. Il n'en reste pas moins que le narrateur autodiégétique, masque déclaré et porte-parole de l'auteur, appréhende de l'intérieur son propre personnage, lequel est au centre de l'histoire. Il est donc concerné de manière plus directe par les conflits en cours que le simple narrateur homodiégétique. Quant à sa faculté de mentir, il la manifeste lui aussi en se basant sur l'ignorance qui était la sienne au moment des faits qu'il rapporte. Ainsi, il peut en dissimuler au lecteur la partie nécessaire au maintien d'un suspense. Ça, ça se voit dans David Copperfield, où il y a une distance entre David adulte qui raconte sa vie et David petit garçon, adolescent, etc., qui ne vit pas les choses. Enfin, ils n'ont pas le même recul. Le narrateur David et le personnage David n'ont pas le même recul. Maintenant, j'en viens à ce que j'appellerais les empilements. Je ne sais pas si c'est le terme le plus élégant pour ça. C'est ce qui se passe quand on a affaire à des récits enchâssés. Je prends un exemple dans Barbet d'Aurevilly, Le bonheur dans le crime, qui est une nouvelle des diaboliques. On a un premier narrateur qui s'appelle Je, dont on ne sait pas qui c'est, parce que c'est Barbet d'Aurevilly lui-même ou pas. Ce n'est pas dit. Je se promène avec son ami le docteur Torti, dont il dresse le portrait. L'avez-vous quelquefois rencontré le docteur Torti? C'était un de ces esprits hardis et vigoureux qui ne chausse point de mitaine, mais la très bonne et proverbiale raison que chat ganté ne prend pas de souris, et qu'il en avait immensément pris, et qu'il en voulait toujours prendre, ce matois de fine et forte race. Espèce d'homme qui me plaisait beaucoup à moi, et je crois bien, je le connais, par les côtés surtout qui déplaisaient le plus aux autres. Deuxième narrateur, le docteur Torti, qui raconte à Je les amours criminels de Serlon de Savigny et de Haute-Claire Stassin, qui ont empoisonné l'épouse de Serlon et vivent depuis un bonheur parfait. Commentaire final, c'est Je qui parle. Donc Je dis, il m'avait intéressé, il s'est sorti, il m'avait intéressé et je le lui dis. Toute criminelle qu'elle soit, fis-je, on s'intéresse à cette Haute-Claire. Sans son crime, je comprendrais l'amour de Serlon. Et peut-être même avec son crime, dit le docteur. Et moi aussi, ajouta-t-il, le hardi bonhomme. Ça, c'est la fin de la nouvelle. Donc on observe un changement de statut de Torti, qui au départ est un personnage, puis qui devient un narrateur, avec cette nuance perverse qu'il donne un point de vue que l'auteur peut faire passer malgré la morale de l'époque, sans être obligé de dire s'il y adhère ou non. C'est Torti qui dit ça. Le narrateur, je, a dit qu'il aimait bien Torti. Torti dit quelque chose qui va tout à fait contre la morale de l'époque. Donc le lecteur est libre d'interpréter ce qu'il veut. Là, c'est un exemple où c'est parfaitement maîtrisé. Je vais prendre un autre exemple où, justement, ça ne marche pas du tout. Et j'emprunte cet exemple à Tolstoï, que j'aime par ailleurs énormément, mais qui, à mon avis, dans la sonate à Kreutzer, a eu un petit problème. Dans ce roman, donc, qui date de 1889, il procède à une dénonciation de l'amour charnel extrêmement virulente. Seulement, il s'y livre au moyen d'un récit dans le récit. On a un premier narrateur, qui est encore je, qui voyage en train et qui rencontre un certain Poznichev. Le deuxième narrateur est ce Poznichev qui lui raconte comment par jalousie il en est venu à tuer sa femme. Le problème vient de ce que la condamnation de la passion charnelle est le fait non du premier narrateur, mais de Poznichev lui-même qui lui apparaît ainsi qu'au lecteur comme un fou exalté à la vie duquel il est difficile de se ranger. D'où le trouble que l'on éprouve en renfermant le livre, quel est vraiment le point de vue de l'auteur ? Questionné à ce sujet par de nombreux lecteurs que sa démonstration par le récit n'avait pas réussi à éclairer, Tolstoï s'est livré dans une postface à un long plaidoyer en défense de la chasteté, en accord avec les arguments de Poznichev. Là, dans cette postface, il écrit « La conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut cesser de penser que l'amour charnel est quelque chose de particulièrement noble, et qu'il faut comprendre qu'un but digne de l'homme, que ce soit le service de l'humanité, de la patrie, de la science, de l'art, sans même parler du service de Dieu, quel qu'il soit, du moment que nous le jugeons digne de l'homme, ne s'atteint point au moyen de l'union avec l'objet aimé, dans le mariage ou en dehors du mariage. Au contraire, l'amour et l'union avec l'objet aimé, quelque effort qu'on fasse pour démontrer le contraire en vers et en prose, ne facilite jamais la poursuite d'un but digne de l'homme, mais le rend toujours plus difficile. » Glop. Ce durcissement par rapport à ses ouvrages précédents peut s'expliquer par la longue dépression qui s'amorce en 1869 pour aboutir en 1881 à sa conversion. En revanche, son échec à inscrire cette théorie dans la structure de la sonate à Kreutzer laisse quand même rêveur. Il s'agit là en effet d'un problème littéraire et non existentiel. Sans doute le fait que le narrateur et Poznichev correspondent à deux visages opposés de lui-même n'y est-il pas étranger. Mais le résultat montre à quel point il est périlleux pour un auteur de confier un message théorique à un personnage ambivalent. J'en viens maintenant au troisième héros de l'après-midi, c'est celui sur lequel je vais être le plus long d'ailleurs. Enfin, je me dépêche un peu. C'est le personnage. Je commence par sa genèse. Quand il crée un personnage, l'auteur combine en général trois éléments fondamentaux. Une partie de lui-même qui lui permet de s'identifier au personnage et de le faire vivre de l'intérieur. Cet aspect peut être à la base même de la création du personnage, sur qui se cristallise alors un problème auquel l'auteur est confronté dans sa vie et qu'il choisit d'aborder à travers ce masque. Mais l'inverse peut aussi se produire. Ayant créé un personnage à partir d'éléments extérieurs, l'auteur est amené à chercher ce qui en lui ressemble à ce personnage de manière à mieux le comprendre. Autre élément, deuxième, des modèles réels. Le modèle que l'auteur puise dans son entourage a lui aussi deux fonctions. D'une part, si c'est une figure particulièrement marquante, elle lui inspire un personnage qui en sera une transposition plus ou moins fidèle. D'autre part, si l'auteur dispose d'un personnage dont la fonction dans le récit est claire, mais qu'il a du mal à se représenter, Il peut choisir de le prêter le physique ou le comportement de telle personne qu'il connaît, voire d'un acteur ou d'un homme politique, pour avoir une référence sur laquelle s'appuyer. Troisième source, enfin, des modèles archétypaux. Dans la conscience de chacun vit un certain nombre de figures archétypales, le père autoritaire, la mère castrante, le fils rebelle, etc., qui prennent naissance dans les mythes anciens et reviennent de façon consciente ou non sous des formes très diverses, leurs interactions donnant souvent une tension de base à l'histoire. Maintenant, je vais poser le problème de l'identification, justement, de l'auteur au personnage. Fréquemment, le romancier se glisse dans la peau de ses personnages, encore que la question fondamentale, justement, se situe là. S'y glisse-t-il ou non ? Autrement dit, dans quelle mesure les présente-t-il de l'intérieur ou de l'extérieur ? À quel moment et en fonction de quoi ? En premier lieu, il a toujours le choix de s'impliquer émotionnellement ou non dans ses personnages. En fonction de son tempérament, mais aussi de l'idéologie littéraire de son époque, il se rapproche davantage de l'une des deux attitudes suivantes. Les considérer comme des êtres réels, dont il prend le destin à cœur à mesure qu'il le forge lui-même. Ne voir en, ou autre attitude opposée, ne voir en eux que des êtres de papier, des actants, selon la formule de Grémas, qui n'existent qu'en tant que support d'un discours théorique ou symbolique. La question de l'identification se pose sans doute davantage dans le premier cas. Cependant, pour des raisons de parole et de point de vue, elle conserve dans le second une part de pertinence. Cela dit, en fonction des exigences de l'histoire comme des principes de base posés lors de l'élaboration, l'auteur est souvent amené à quitter le rôle de témoin externe pour assumer de façon partielle ou totale l'intériorité d'un personnage. Donc pour cela, il dispose essentiellement de trois positions. La position externe. Il décrit ses actes et rapporte ses propos comme pourrait le faire un témoin qui l'observe de l'extérieur sans savoir ce qui se déroule dans son esprit. La position moyenne. Il est décrit également de l'extérieur, mais en fournissant des indications sur ce que pense le personnage et ce qui le pousse à agir. Troisième position, la position interne. Il s'identifie au personnage et décrit non pas l'image que celui-ci donne aux autres, mais les sensations, les affects et les pensées qu'il traverse. Un exemple de ça, c'est le discours intérieur. Ceci étant, vis-à-vis de l'un des personnages ou de leur ensemble, il peut conserver la même position d'un bout à l'autre du roman, tout comme en changer selon les moments du récit. Cela relève des choix esthétiques de base, autant que des nécessités dramatiques locales. Si l'on prend l'exemple d'un conflit entre un homme amoureux, H, c'est le petit chemin que je vous ai indiqué, un homme amoureux H et la femme F qui le dédaigne. La combinaison des positions E, M et I, donc externe, moyenne et interne, de l'auteur vis-à-vis de l'une et de l'autre, lui fournit 9 possibilités, selon qu'il est extérieur par rapport aux deux, extérieur par rapport à l'un, moyen par rapport à l'autre, extérieur, intérieur, moyen, intérieur, enfin, vous voyez, il y a 9 combinaison possible. La combinaison HEFE lui permet de rester totalement extérieur au conflit, sur lequel il jette alors un regard d'ordre quasi clinique. La combinaison H intérieur F extérieur favorise l'identification du lecteur au malheureux qui soupire pour une beauté inaccessible. La combinaison H extérieur F intérieur, en revanche, le rapproche des réactions de cette dernière, de la femme, poursuivi par un fâcheux qui lui inspire agacement, peur ou moquerie. La combinaison H intérieur F intérieur, enfin, permet de rendre perceptible la cruauté intrinsèque de la situation où s'affrontent deux types de sentiments incompatibles. Quant aux autres, elles constituent autant d'intermédiaires entre ces différents personnages. Vis-à-vis d'un personnage unique, le passage de la position externe à la position interne est déjà périlleux. Mais dans le cas présent, les configurations proches de H intérieur, F intérieur font quasiment appel à la schizophrénie de l'auteur. Dans ce passage répété de l'intériorité d'un personnage à celle de son adversaire, passage qui l'amène l'auteur à s'identifier avec une égale sincérité à des perceptions opposées, il est obligé de se soumettre à un dédoublement constant. C'est là véritablement qu'il fait s'affronter sur le papier les inconciliables de son être profond, le bon et le cruel, le lucide et le naïf, l'honnête et l'hypocrite, le lâche et le courageux, etc. Dans un duel où il est à la fois les deux combattants et le champ de bataille. À ce stade, l'écriture devient une authentique catharsis, où les zones les plus sombres et les plus cachées de l'auteur surgissent en pleine lumière, comme elles ne le font jamais dans la vie réelle. Les intensités qu'il traverse alors peuvent être d'une grande violence. On se souvient d'Alexandre Dumas surpris en larmes par son fils après avoir narré la mort de Porthos dans Le Vicomte de Bragelonne. Ce n'est qu'un cas parmi des milliers. Pour un écrivain, transcrire de l'intérieur la mort d'un personnage qu'il aime est une expérience terrible. Douloureuse d'un côté, comme étant à la fois la perte d'un être cher et la sienne propre, mais voluptueuse de l'autre à la manière d'une immolation qu'il subit tout en l'accomplissant lui-même, avec de surcroît la certitude d'y survivre. C'est le suprême paradoxe d'un meurtre où il est autant assassin que victime et qui ne s'accomplit que sur le plan symbolique. J'en viens maintenant aux caractéristiques des personnages. Dans le plan de l'histoire, un personnage est caractérisé à chaque instant par un certain nombre de paramètres, certains fixes, d'autres variables. Dans ce qui suit, je m'en tiendrai aux personnages de type classique, c'est-à-dire ceux qui ont... Le rôle de se passer dans la narration est d'ancrer le personnage dans une réalité certes fictive, mais qui permette au lecteur de le ressentir comme un individu et non comme un ectoplasme venu de nulle part. Le présent, il reflète sa situation actuelle, son physique, son caractère, sa condition sociale, ses relations avec les autres protagonistes. Mais aussi, de manière plus fluctuante, ses sentiments, ses émotions, bref, ses états d'âme. Ces éléments servent à chaque instant d'interface entre le lecteur et le personnage et permettent au premier de garder un contact avec le second. Le futur, enfin, c'est un futur non pas réel, mais hypothétique, tel que le personnage le voit lui-même à chaque instant. Il comprend donc ses objectifs à court terme, mais aussi, souvent, son super objectif, celui qui le motive tout au long du roman. L'ensemble des objectifs des différents personnages, en s'opposant les uns aux autres, est un des éléments déterminants de la tension dramatique. Enfin, il faut garder à l'esprit le fait que ces trois temps sont étroitement corrélés les uns aux autres, le passé déterminant le présent, qui lui-même, évidemment, conditionne le futur. Pour mieux discuter ces questions, je vais me référer à trois portraits que donne Balzac de Lisbeth Fischer dans La cousine Bette, qui date de 1847. Alors, je vous avoue que j'ai une tendresse toute particulière pour La cousine Bette. Ce sont vraiment des personnages les plus sympathiques de la littérature. Premier portrait. Cette vieille fille portait une robe de mérinos, couleur raisin de Corinthe, dont la coupe et les liserés dataient de la Restauration. Une collerette brodée qui pouvait valoir 3 francs. Un chapeau de paille cousu à coque de satin bleu bordé de paille comme on en voit aux revendeuses de la halle. À l'aspect de souliers en peau de chèvre dont la façon annonçait un cordonnier du dernier ordre, un étranger aurait hésité à saluer la cousine Bette comme une parente de la maison, car elle ressemblait tout à fait à une couturière en journée. Ce qui est très intéressant dans ce portrait, c'est qu'il ne parle que de ses vêtements. Il ne dit rien sur son physique, sur son corps. Un peu plus haut, il l'a décrite comme une vieille fille sèche. Là, le fait qu'il n'en parle que comme des vêtements, dénoncés à la fois comme pauvres et de mauvais goût, vise à donner au lecteur l'image d'une créature racornie, peu sympathique. Deuxième portrait. Un petit peu enfoncé le clou. Lisbeth Fischer, de 5 ans moins âgée que Madame Hulot, et néanmoins fille de l'aînée des Fischer, était loin d'être belle comme sa cousine. Excusez-moi, j'ai fait des erreurs, hein. Aussi avait-elle été prodigieusement jalouse d'Adeline. La jalousie formait la base de ce caractère plein d'excentricité, mot trouvé par les Anglais pour les folies non pas des petites mais des grandes maisons. Paysanne des Vosges dans toute l'extension du mot, maigre, brune, les cheveux d'un noir luisant, les sourcils épais et réunis par un bouquet, les bras longs et forts, les pieds épais, quelques verrues dans sa face longue et sinistre. Tel est le portrait concis de cette Vierge. On cherche vainement un trait positif. Hein. Portrait qui est d'ailleurs autant physique que relationnel, puisqu'il oppose la laideur de Beth à la beauté d'Adeline et qu'il instaure entre elles le trait d'union de la jalousie. Ce portrait présente, enfin, ainsi que le premier, des données constantes du personnage. C'est-à-dire que tout au long du livre, elle va être habillée de la même manière. Bon, elle va un petit peu se raffiner quand même sur le vêtement. Mais bon, elle aura toujours sa verrue, c'est le ravissant bouquet qui réunit ses sourcils, etc. Mais il y a un troisième type de portrait, qui est le portrait instantané, qui est dressé quand elle a appris de son amie Valérie les secrets du jeune Steinbock dont elle était prise, et qui va épouser justement la fille d'Adeline. Alors ça, c'est un portrait instantané qui la montre en action, ou plutôt en réaction. La physionomie de la Lorraine était devenue terrible. Ses yeux noirs et pénétrants avaient la fixité de ceux des tigres. Sa figure ressemblait à celle que nous supposons aux pythonisses. Elle serrait ses dents pour les empêcher de claquer et une affreuse convulsion faisait trembler ses membres. Elle avait glissé sa main crochue entre son bonnet et ses cheveux pour les empoigner et soutenir sa tête. Devenue trop lourde, elle brûlait. La fumée de l'incendie qui la ravageait semblait passer par ses rides comme autant de crevasses labourées par une éruption volcanique. Ce fut un spectacle sublime. On ne peut pas dire que le narrateur soit étouffé par la compassion. L'adjectif crochu enlève tout pathétique au geste de la malheureuse. Quant à la dernière phrase, c'est la flèche du Parthe. À la voir dans cet état, il jubile. Et ça, c'est très intéressant de voir ça, la manière dont le narrateur donne le point de vue que l'auteur veut que le lecteur ait sur le personnage. Ce fut un spectacle sublime. On ne participe pas à sa souffrance, on la regarde comme un animal de foire. Et j'en viens maintenant à un élément très important du personnage, c'est la parole. La parole, le lieu sensible de la relation entre le narrateur et le personnage, c'est le dialogue où le premier est censé transmettre la parole du second. La nature de cette parole va dépendre d'abord du rapport que le narrateur entretient avec l'histoire qu'il raconte, en particulier du fait qu'il en soit ou non un personnage. Et je vais être obligé de reprendre la trinité genétienne. Donc, le narrateur hétérodiégétique, le narrateur n'apparaît pas comme un personnage caractérisé, mais comme l'invisible énonciateur d'une parole écrite, à savoir le texte romanesque lui-même. Sa parole devient alors, à l'intérieur du roman, le niveau de référence du discours. C'est elle qui définit le style littéraire de l'auteur, et c'est par rapport à elle qu'il convient d'aborder celui des dialogues. Les choix esthétiques relatifs à ces deux paroles, celle du narrateur et celle du personnage, conduisent à deux configurations opposées, selon que l'auteur décide de les traiter en unité ou en contraste de langage. L'unité de langage. Dans ce cas, la langue du récit et celle des dialogues sont identiques, tant au niveau du rythme qu'à celui du vocabulaire ou de la syntaxe. Curieusement, ce trait qui pourrait passer pour un signe de classicisme apparaît aussi bien dans des romans du beau siècle que dans des romans contemporains, dans la littérature populaire que dans la littérature savante. Cela tient en particulier au fait que cette unité peut résulter soit d'un alignement du dialogue sur le style écrit, soit au contraire d'un alignement de la narration sur le style oral. Alors la princesse de Clèves offre un exemple de dialogue écrit dans une langue irréprochable, ne créant aucune rupture avec le discours du narrateur. Lorsque l'héroïne avoue à son mari qu'elle est triprise d'un autre homme, la manière dont celui-ci exprime son émotion reste d'une élégance toute littéraire. Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de passer, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur et l'embrassa en la relevant. « Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. » Il y a très peu de marques d'oralité dans ces phrases, si on excepte les signes fatiques qui indiquent qu'elles s'adressent à un interlocuteur. Le ton reste celui d'une analyse objective de la situation, et l'émotion, c'est ça qui est intéressant, ressentie par le lecteur, par le locuteur, n'affecte en rien le rythme de son discours, en tout point semblable à celui du paragraphe précédent. Aucune interjection en particulier, aucune hésitation ne vient le perturber en y introduisant des ruptures susceptibles de traduire le trouble du personnage. Bref, l'auteur ne cherche pas un effet de mimésis avec le langage parlé, mais demeure dans une continuité poétique avec son propre langage. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'un trait propre aux littératures savantes ou à celles qui décrivent, comme la princesse de Clèves, une élite socioculturelle ? Pas nécessairement. Certaines pages de l'Assommoir, où le milieu dépeint est rien moins que distingué, pressentent une continuité narration-dialogue comparable, mais reposant sur des bases tout à fait différentes. Puis, comme la noce, arrivé sur la place Vendôme, regardait la colonne, M. Madinier songea à faire une galanterie aux dames. Il leur offrit de monter dans la colonne pour voir Paris. Son offre parut très farce. Oui, oui, il fallait monter, on en rirait longtemps. D'ailleurs, ça ne manquait pas d'intérêt pour les personnes qui n'avaient jamais quitté le plancher aux vaches. Si vous croyez que la bonbon va se risquer là-dedans avec sa quille, murmurait Mme Lorilleux. Moi, je monterai votre montier, disait Mme Lerat, mais je ne veux pas qu'il y ait d'homme derrière moi. Et la noce monta. Dans l'étroite spirale de l'escalier, les 12 grimpaient à la file, butant contre les marches usées, se tenant au mur. Puis ce fut une bosse de rire. Les dames poussaient de petits cris, les messieurs les chatouillaient, leur pinçaient les jambes. Mais elles étaient bien bêtes de causer. On avait l'air de croire que ce sont des souris. D'ailleurs, ça restait sans conséquence, ils savaient s'arrêter où il fallait, pour l'honnêteté. Ici, c'est le langage parlé qui prédomine. Dans le dialogue, mais aussi dans le discours du narrateur, où il s'introduit régulièrement à la faveur d'une phrase de transition. La phrase de transition, comme « son offre parut très farce », puis ce fut une bosse de rire, présente le point de vue du groupe, fait intervenir un terme délibérément trivial, ce qui sert de transition avec les phrases suivantes, qui relèvent directement du style indirect libre. Oui, oui, il fallait monter, mais elles étaient bien bêtes. Sinon, du style direct, on a l'air de croire que ce sont des sourds. Donc, c'est la démarche inverse du cas précédent. Hein. C'est pas le caractère écrit de la narration qui s'étend en dialogue, mais le caractère oral du dialogue qui contamine la narration. Mais dans les deux cas, on passe de l'un à l'autre sans rupture au fil d'une écriture dont l'unité est partie intégrante du caractère. L'autre possibilité est donc le contraste de langage. Là, le dialogue des personnages tranche sur le discours du narrateur, en sorte d'inscrire dans la matière même du texte l'opposition entre oral et écrit. Et si l'on observe ce type d'opposition dans un roman aussi littéraire que Salammbô, ce n'est un paradoxe qu'en apparence. La tirade dans laquelle Mato exprime sa passion voit ainsi son rythme suivre les émotions du barbare. Pour t'obéir, je descendrai par la caverne d'Adrumète dans le royaume des ombres. Pardonne, c'était comme des montagnes qui pesaient sur mes jours. Et pourtant, quelque chose m'entraînait. Je tâchais de venir jusqu'à toi. Sans les dieux, est-ce que jamais j'aurais osé? Partons, il faut me suivre. Ou si tu ne veux pas, je vais rester, que m'importe. On est très loin des phrases structurées et analytiques du prince de Clèves. Hein. La langue reste noble, métaphorique même, mais le discours s'emplit d'exclamations, s'interrompt, se contredit, devient chaotique, à l'image du tumulte intérieur du héros. Donc il est en contraste avec le discours du narrateur. Ce contraste apparaît plus nettement encore quand l'auteur choisit d'attribuer à ses personnages un parler caractéristique. Alors ça, on trouve ça chez Genet, dans Querelle de Brest par exemple, qui date de 1953. Le brouillard unissait Gilles et Roger. Il leur donnait une confiance et une amitié mutuelle. Encore que peu discernable par eux, cette solitude leur accordait une légère hésitation un peu craintive, un peu tremblante, une charmante émotion comme celle des enfants, leurs mains au fond des poches cependant, se touchèrent et s'en mêlèrent leurs pieds. « Fais gaffe, merde, avance. Ça va être le quai, faut se méfier. Se méfier de qui? T'as l'escon? Ah non, mais des fois. » Discours du narrateur, tout en subtilité, analyse par le menu ce qui, dans leur rapport même, échappe au personnage. D'ailleurs, on remarquera que la syntaxe même n'est pas dépourvue de sophistication. Par exemple, l'inversion « se touchèrent et s'en mêlèrent leurs pieds ». C'est une tournure très recherchée. À l'inverse, bon, la langue des personnages est abrupte, les phrases brèves, les termes argotiques, les incorrections, l'élision de voyelles, autant de signes caractéristiques du langage populaire. Le contraste entre les deux est donc un des moyens qu'utilise Genet pour exalter le monde des voyous. Leur vulgarité soigneusement reproduite est placée dans l'écrin d'une langue noble qui la met en valeur comme une marque d'érotisme viril. Et si dans les pages suivantes, il ne se prive pas de placer sous la plume de son narrateur des thèmes sexuels tels que bandé ou queue, jamais il ne lui prête les tournures orales que ses héros emploient et qui font qu'à travers la notation écrite de leurs propos, c'est leur intonation, voire le timbre de leur voix, qui résonne dans l'esprit du narrateur. Opposé à des personnages bruts, un narrateur raffiné lui permet d'exprimer sa fascination pour leur univers. On est là aux antipodes du choix d'un Zola qui, pour dénoncer la vulgarité du milieu qu'il dépeint, on incorpore de façon parodique les traits dans le discours narratif. Deuxième élément de la Trinité, le narrateur homodiégétique. Alors là, le problème de sa parole, quand le narrateur se trouve être un des personnages de l'histoire, le problème de sa parole se pose de manière plus aiguë, puisqu'il s'exprime à deux niveaux. À un niveau écrit en tant que narrateur et à un niveau oral en tant que personnage. Une certaine cohérence doit donc être assurée entre ces deux niveaux. Il serait en effet peu crédible qu'il ait par exemple le discours écrit d'un lettré et le discours oral d'un inculte. Pour ne pas dire le contraire, le discours écrit d'un inculte et le discours oral d'un lettré. Maupassant, qui a toujours porté un soin extrême à la langue des dialogues, donne un exemple de cette situation avec la nouvelle Conte de Noël, où le narrateur, le docteur Bonenfant, raconte à un groupe de dames un miracle auquel il a assisté. Dans un premier temps, il introduit les paysans qui ont vécu cette aventure. Alors là, je ne vais pas trop m'oser me penser à lire l'argot de Maupassant, parce que... Bon, on se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œuf méfiant. Ça, c'est du français. Alors après, on passe en normand. Et s'il y avait quelque chose dans cet œuf, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? Je t'ai dit, mais allons, mange l'œuf et pas la bête. J'ai peut-être plus l'accent belge, je ne sais pas. Je ne suis pas très bon pour l'accent normand. Elle ouvrit l'œuf, il était comme tous les œufs et bien frais. Ensuite, le docteur Bonenfant entre lui-même en scène, la femme ayant présenté sitôt l'œuf avalé des signes de possession diabolique. Donc, il entre lui-même en scène, ainsi que le curé du village. Et il écrit ceci, « La veille au matin, le prêtre vint me trouver. » J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme. Je répondis au curé, je vous approuve absolument, monsieur l'abbé, si elle a l'esprit frappé par la cérémonie, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans autre remède. Donc, le discours du narrateur est celui d'un homme cultivé, et sa langue orale également. Hormis les signes locutoires indispensables, le fait de dire « je vous approuve, monsieur le curé ». Lui, comme le curé, sans gens de savoir, même si leurs convictions diffèrent. En revanche, le parler des paysans est tout autre, retranscrit phonétiquement avec ses abréviations, ses fautes de syntaxe et ses tournures locales. Le médecin, dans son récit, s'en fait le rapporteur fidèle, et ce parler reste en tout point identique à celui que Maupassant attribue en général assez paysans, y compris dans des récits à narrateur hétérodiégétique. Ceci montre que si par rapport à son propre personnage, un narrateur homodiégétique ne change guère de langage, il peut en revanche acquérir vis-à-vis des paroles d'un comparse, au pareil caractérisé, la transparence d'un narrateur hétérodiégétique. Ceci présente l'avantage de donner au lecteur une connaissance directe de ce parler. La situation se complique davantage lorsque plusieurs récits s'imbriquent les uns dans les autres, chacun des narrateurs successifs pouvant de surcroît apparaître comme personnage dans le récit de l'un des deux autres. On revient encore une fois à Émilie Brontë, dont Les Hauts-Durs le Vent présente de tels enchâssements où se superposent par endroits jusqu'à trois niveaux de récits. Alors le récit R1. Monsieur Lockwood, qui est le narrateur N1, fait au lecteur un récit autodiégétique de son arrivée chez Heathcliff. Le récit R2, Nelly Dean, deuxième narrateur, raconte à M. Lockwood l'histoire des familles Earnshaw et Linton. Récit R3, Isabelle Linton, qui est narrateur 3, envoie une lettre à Nelly Dean pour lui narrer sa fuite et son mariage malheureux avec Heathcliff. R2, le récit de Nelly Dean, interrompu de temps en temps par des retours à R1, le récit de Lockwood, constitue la partie principale du roman. Quant à R3, il est inséré dans R2 sous la forme d'une lettre, donc d'un récit autodiégétique écrit, lu textuellement par N2. Quand on compare ces trois récits, il apparaît vite que la langue est la même, qu'il soit fait par écrit, comme R1 et R3, ou par oral, R2. Ensuite, il comporte tous les trois des dialogues, ce qui accuse encore leur caractère romanesque. En particulier dans le cas de R3, l'usage du dialogue dans une lettre étant plutôt rare. Enfin, la manière dont les personnages s'expriment ne varie pas selon le narrateur qui rapporte leurs propos. Et ce dernier point est particulièrement frappant dans le cas du vieux Joseph, dont le parler paysan, dans la traduction de Frédéric Delbecq, est caractérisé de manière identique par les trois. Là encore, vous m'excuserez mon parler paysan qui n'est pas terrible. Dans R1, donc, propos transmis par M. Lockwood. Je me demandions comment vous pouvez rester là à ne rien faire et à vous chauffer quand tous y sont dehors. Dans R2, propos transmis par Nelly Dean. Bien sûr que le maître y fera une bite pour les diables demain matin et qu'il n'aura point tort. Dans R3, jamais chrétien a-t-il entendu quelque chose pareil, vous mangez vos mots, vous les avalez, comment nous pourrions deviner ce que vous dites? Il est quand même peu probable que dans la lettre que N3, donc Isabelle, adresse à N2 Nelly, elle prenne la peine de retranscrire aussi fidèlement ce parler, hein, surtout que c'est une lettre où elle est très émue, donc on n'imagine pas que le personnage s'amuse à faire ça. Et pourtant c'est nécessaire, car du point de vue du lecteur, le langage de Joseph est caractéristique de Joseph, et non pas du narrateur qui lui transmet. Ce type d'unité, de toute façon, outre qu'il rend la description cohérente, peut aussi s'expliquer par le fait qu'en définitive, c'est toujours N1 qu'il parle, puisque c'est lui qui rapporte le récit de N2, et c'est lui qui rapporte la lecture que fait N2 de la lettre de N3. Il le précise d'ailleurs à un moment lui-même. Je vais poursuivre son récit, celui de Nelly, N2, en empruntant ses propres termes, un peu condensés seulement. Elle est en somme très bonne conteuse, et je ne crois pas que je pourrais améliorer son style. Bon, je vais peut-être passer à la suite. Je saute un passage parce que c'est pour laisser un peu de place au débat. Je viens au narrateur autodiégétique. Lorsque le narrateur est le héros de l'histoire qu'il raconte, ce qui est un cas particulier du précédent, le problème de la correspondance entre son langage en tant que narrateur et ses propos en tant que personnage apparaît de façon plus nette encore, puisqu'il est constamment amené à retransmettre ses propres paroles au lecteur. En général, comme dans le cas précédent, on observe une assez grande unité entre les deux, ce qui est somme toute logique, puisque c'est les mêmes individus qui s'expriment, qu'ils soient censés le faire par écrit ou par oral. On peut ainsi mettre en rapport les deux styles de Félix de Vandenesse dans le Lys dans la vallée, de Balzac. Après le dîner, nous nous promenâmes dans une lande où rien ne pouvait venir. Le sol en était pierreux, desséché, sans terre végétale. Néanmoins, il s'y trouvait quelques chênes et des buissons pleins de cinelles. Mais au lieu d'herbe s'étendait un tapis de mousse fauve, crépue, allumé par les rayons du soleil couchant et sur lesquels les pieds glissaient. Ça, c'est lui en tant que narrateur. Lui en tant que personnage, maintenant. « Quelles délicieuses odeurs arrivent ici et les beaux effets de lumière, m'écriai-je. Je voudrais bien avoir à moi cette lande. J'y trouverais peut-être des trésors en la sondant, mais la plus certaine richesse serait votre voisinage. Qui, d'ailleurs, ne payerait pas cher une vue si harmonieuse à l'heure et cette rivière serpentine où l'âme se baigne entre les frênes et les aulnes ?» Le même rapport avec le paysage environnant s'exprime dans les deux paragraphes. Si dans le second, l'exclamation initiale appartient bien au style oral et montre le personnage en situation face au paysage qu'il admire, la dernière phrase, avec sa métaphore très littéraire sur l'âme, relève du style écrit. On a donc entre les deux discours une fusion très nette, le second apparaissant de surcroît comme l'aboutissement émotionnel du premier. L'un et l'autre se font ainsi les interprètes du tempérament du héros, jeune homme sensible et exalté, nourrissant son lyrisme de la contemplation de la nature. On peut faire un constat analogue dans des textes présentant une écriture très différente. Reprenons L'étranger de Camus, hein, où le narrateur autodiégétique présente ainsi son entretien avec le concierge de l'asile où sa mère est morte. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu. On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu « Non ». Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé et il m'a demandé « Pourquoi ?» Et sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Ici, c'est l'absence d'émotion qui frappe. Le dépouillement du récit qui s'étend en dialogue et crée un nivellement par l'indifférence ou ce qui apparaît comme tel. Il y a un blanc entre ce que le narrateur héros devrait éprouver et ce qu'il éprouve, et ce blanc s'étend à l'ensemble de l'écriture, du ton neutre de son discours à la brièveté de ses répliques. Là encore, d'une manière très différente du cas précédent, l'unité est de rigueur. Le problème du narrateur autodiégétique devient plus aigu lorsque dans son mode d'expression apparaissent certains traits caractéristiques de l'auteur. Chez Dickens, l'humour est un de ses traits, puisqu'on le retrouve de manière égale dans tous ses romans, et cela quel que soit le type de narrateur employé. Une question se pose alors à propos d'un ouvrage tel que David Copperfield, où le héros raconte lui-même sa propre histoire. La distance humoristique qui imprègne le récit se retrouve-t-elle ou non dans le caractère du personnage, et en particulier dans les phrases de dialogue qui lui sont attribuées? Il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. Le narrateur déploie dans la description de ses partenaires toutes les formes de l'ironie. Humour tendre quand il s'agit de Dora, de Mr. Micawber ou de sa tante Miss Trotwood. Ma tante, dont la physionomie ne reflétait aucune autre espèce de sentiment que la surprise, resta assise sur le gravier et me regarda fixement jusqu'au moment où je me mis à pleurer. Ça c'est quand il arrive chez elle et il est petit. Alors elle se leva en grande hâte, me prit par le collet et me mena dans le salon. Arrivé là, son premier jet fut d'ouvrir une grande armoire, d'y prendre plusieurs bouteilles et de me verser dans la bouche un peu du contenu de chacune d'elles. Je crois qu'elle avait dû les choisir au hasard, car je suis sûr d'avoir senti le goût de l'anisette, de la sauce aux anchois et de l'assaisonnement pour salade. Humour encore, mais féroce, quand David raconte ses démêlés avec des êtres hypocrites comme Uriah Heep ou cruel comme Mr. Crickle, avec sa redoutable canne. Ça, c'est quand il est donc pensionnaire dans l'école de Mr. Crickle. À chaque question, il m'en infligeait un coup pénétrant sous lequel je me tordais de douleur. Je fus donc très vite initié à l'école de Salem, comme le disait Steerforth, et très vite en larmes aussi. Je ne veux pas dire que c'était là les marques d'une distinction particulière que j'étais seul à recevoir. Au contraire, la grosse majorité des élèves, surtout les petits, furent affligés de semblables témoignages d'attention quand Mr. Crickle fit le tour de la classe. En tant que personnage, en revanche, les phrases que prononce le jeune homme présentent un caractère moins distancié. Cet humour semble apparaître chez lui qu'à posteriori, quand il contemple les mésaventures de sa jeunesse avec le recul de l'adulte. De plus, il se montre assez peu bavard par rapport à ses interlocuteurs. Souvent même, il se contente de résumer ses propos au style indirect, comme si son récit ayant déjà pu familiariser le lecteur avec son contenu, leur forme lui importait moins que celle des paroles qu'on lui adresse en retour. On a ainsi un double portrait, David personnage, David narrateur, l'un vivant les situations au premier degré avec des émotions authentiques, le second ayant par rapport à ces mêmes émotions une distance qui lui permet de relativiser nombre d'entre elles. Enfin, il reste un cas où, de façon remarquable, le discours du narrateur autodiégétique et ses parties de dialogue présentent à la fois analogie et disparité. C'est celui où ce discours est altéré, soit parce qu'il reflète un état mental pathologique, soit parce qu'il consiste en une transcription directe de la pensée. Dans l'heure là, Maupassant offre ainsi un exemple de dégradation du texte narratif à mesure que la folie du sujet progresse. 2 juillet. Je dis au moine, y croyez-vous? Il murmura, je ne sais pas. Je repris, s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous, comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps? Comment ne les auriez-vous pas vus, vous? Comment ne les aurais-je pas vus, moi? 5 juillet. Comme je le fais maintenant chaque soir, j'avais fermé ma porte à clé. Puis, ayant soif, je bus un demi-verre d'eau et je remarquai par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal. 6 juillet. Je deviens fou. On a encore bu toute ma carafe cette nuit. Ou plutôt, je l'ai bu. Mais est-ce moi? Est-ce moi? Qui serait-ce? Qui? Oh mon Dieu, je deviens fou. Qui me sauvera? Dans le premier fragment, le dialogue du héros est calme, cohérent, et ses phrases agencées en fonction d'un raisonnement logique. Dans le deuxième, son discours, écrit dans le style narratif d'un journal intime, présente les mêmes caractéristiques. C'est avec le troisième que la rupture apparaît. Alors qu'il est censé poursuivre son journal, l'émotion le submerge et il s'exprime de manière typiquement orale par interjection et questions haletantes. On assiste ainsi à un renversement du rapport écrit-oral dans laquelle une partie écrite présente davantage de marques d'oralité que le dialogue lui-même. Un trait formel de ce type est en lui-même un indice du trouble mental du héros. Bon, ben, je pense que ces derniers exemples nous ont amené au cœur de la problématique, justement, de l'imbrication entre l'auteur, le narrateur et le personnage. Et je vais peut-être m'en tenir là et vous donner la parole.